bizarre.
Exactement, c'est bizarre.
Je dis simplement, c'est bizarre.
Première chose, bizarre.
Deuxième chose, bizarre.
Je trouve ça pour le moins bizarre.
Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays.
Non, mais les journalistes, vous avez campagne. Ça d'extraordinaire.
Mais non, mais...
Vous foutez rien et vous reprochez aux autres de pas avoir fait. Non, vous foutez rien, vous n'avez pas écouté.
Les Concernés, l'émission de radio qui reprend la parole à ceux qui nous l'ont confisqué. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode des Concernés. Nous sommes dans les locaux de la FIDEL, le premier syndicat lycéen à avoir été créé en France. À nos côtés, Dounia Haddad, secrétaire générale de la FIDEL, bonjour. Narges, qui bonjour. Participe aux émissions des Concernés régulièrement. Et un nouveau qui s'appelle Taha, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va aborder le thème de Parcoursup, un thème qui va pouvoir avoir une résonance particulière auprès notamment des lycéens. Donc, tout d'abord, Dounia, je te laisse te présenter où nous sommes, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais du coup au sein de la FIDEL.
Aujourd'hui, on est au siège, local de la FIDEL. La FIDEL, juste pour recontextualiser, c'est la Fédération indépendante et démocratique lycéenne. Donc un syndicat créé en 1987, comme tu l'as dit, le premier syndicat qui a été créé en France et qui s'est créé à la suite des mouvements contre la loi de Vaquer, qui déjà, à cette époque-là, instaurait une première étape de sélection à l'entrée des universités. Ce qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement avec ces nouvelles réformes. Et ce syndicat qui est la FIDEL a pour but et pour objectif de valoriser les droits des lycéens à l'intérieur des établissements mais aussi à l'extérieur avec d'autres thématiques qui sont plus d'actualité aujourd'hui qu'en 87.
Et toi personnellement du coup dans ta vie étudiante, qu'est-ce que tu fais à quoi aspires-tu à devenir d'ici quelques années?
Moi, je suis secrétaire générale, comme je l'ai dit, depuis 3 ans. J'ai rejoint la FIDEL parce que j'étais dans un lycée du 93 à Sevran et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problématiques qui concernaient mon lycée, et par exemple le manque de profs ou le manque de moyens. Et par la suite, en discutant avec d'autres élèves, je me suis rendu compte que ces problématiques n'étaient pas seulement dans mon lycée ou dans ma région, mais que c'était des problématiques plus nationales. Et donc, pour le résoudre, ça ne sert à rien de se mobiliser chacun dans son coin, mais que c'était plus utile de se fédérer, de mener ces combats tous ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre un syndicat lycéen, entrant la FIDEL, parce que c'est lui qui correspondait le plus à mes valeurs. Et donc maintenant, je suis sur la fin de mon mandat de secrétaire général, car je viens d'entrer dans les études supérieures. Et par la suite, dans le meilleur des mondes, j'aimerais être sociologue, mais...
Et tu fais quoi du coup comme étude?
Moi je suis en première année à Sciences Po Paris sur le campus de Menton qui est centré sur la région Méditerranée-Moyen-Orient.
Et au sein de la FIDEL, est-ce que tu as une expérience peut-être de mobilisation qui t'a le plus marqué, celle que tu retiens le plus du coup vu que maintenant tu arrives à la fin de ce passage-là, de cet événement-là, de ces moments, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort plus que d'autres?
Un des moments marquants, je pense que c'était la marche pour le climat avec Greta Thunberg à Paris, parce que c'est des questions qui aujourd'hui fédèrent beaucoup la jeunesse, qui sont très importantes, qui sont nouvelles aussi pour certains d'entre nous. Par exemple, nos parents qui sont pas forcément sensibilisés à ces questions-là. Donc ça faisait vraiment plaisir de voir autant de jeunes dans la rue. Aujourd'hui, les mouvements pour le climat, c'est un des rares mouvements qui rassemble encore des jeunes dans la rue, donc c'est important. Mais sinon, je pense un des moments les plus forts, c'était les mouvements à la suite de la réforme du bac de 2021 et de Parcoursup aussi l'année d'avant, parce que c'est des mouvements qui ont rassemblé vraiment tous les lycéens et pas seulement les lycéens de Paris. C'était partout en France, des lycées généraux, des lycées professionnels, des secondes au terminal, avec le soutien des profs, avec le soutien des parents, de l'administration. Et donc, c'était un des moments, je pense, les plus forts.
Et à côté de cet engagement, justement, est-ce que tu t'es senti, et la FIDEL en général, est-ce que vous vous êtes senti assez écouté, assez représenté dans les médias ou par la classe politique?
Malheureusement, non. C'est pas un mystère. Aujourd'hui, les politiques accordent assez peu de temps aux questions de jeunesse, encore plus, enfin encore moins du coup, aux questions lycéennes, parce que tout simplement, le constat qu'on fait, c'est que les lycéens, la plupart, on n'a pas encore le droit de vote, donc pourquoi s'intéresser à des gens qui ne voteront pas pour nous ? Donc aujourd'hui, les lycéens, on n'est pas écoutés. Encore des fois, on nous demande nos avis, mais c'est pas parce qu'on nous consulte que nos demandes ou nos propositions sont forcément appliquées. Donc malheureusement, non, on est assez peu écoutés, que ce soit par les médias ou par la classe politique.
Et du coup, on va passer à la deuxième partie. On va aborder un peu l'actualité, parce qu'en ce moment, il y a l'émergence, entre guillemets, du mouvement des sans-fac. Du coup, qui est un mouvement qui rassemble tous ceux qui n'ont pas eu d'affectation, notamment cette année via Parcoursup. Est-ce que tu en as eu des échos ? Est-ce qu'il y a eu des actions menées avec la FIDEL ?
Du coup, en tant que syndicat lycéen, on a été solidaires avec les sans-fac. On s'est rendu plusieurs fois pour les soutenir, entre autres à Nanterre. Parce que c'est important pour nous, parce que déjà, la FIDEL a été créée suite à un projet de loi qui visait à instaurer la sélection dans les facs. Ce projet de loi a été abandonné en 86, donc à la veille de la création de la FIDEL. Mais aujourd'hui, c'est revenu, ce problème avec Parcoursup. L'entrée aux universités est devenue un luxe et non plus un droit. Et donc, c'était important pour nous de se mobiliser par rapport à ça.
Et du coup, en parlant de Parcoursup, toi, tu es de la génération de Parcoursup. Est-ce que ça t'a posé problème à toi, personnellement ? Ou est-ce que ça a été, comment ça s'est passé pour intégrer Sciences Po ? Parce que je sais qu'il y a une filière sur Parcoursup, notamment les IEP, et d'autres directement par concours. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter ton expérience personnelle ?
Alors, personnellement, ça s'est plutôt bien passé sur Parcoursup, parce que j'ai pu avoir un accompagnement de la part de mes professeurs, donc qui m'ont accompagné pour l'écriture de mes lettres, par exemple, ou pour me donner des petits conseils, etc., pour Parcoursup. Par contre, en fait, la génération dont je suis issue, du coup, le bac 2021, c'était un peu la double peine, si on peut dire, parce qu'il y a eu... c'était la première année du bac Covid, et aussi... la nouvelle réforme du bac, celui de 2021, qui supprime les filières et instaure des sortes de spécialités qu'on doit choisir en première. Et ces spécialités-là aussi impliquent beaucoup de choses par rapport à Parcoursup, pardon, parce que dès la fin de seconde déjà, on est amené à choisir des spécialités qui renferment encore nos choix. Et des fois, à 14 ans, 15 ans, même 16 ans, on est encore beaucoup trop jeune pour pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire par la suite. Et il y a des spécialités qui, quand même, sont très pointues et qui ferment, du coup, beaucoup de portes. Mais pour moi, personnellement, ça s'est plutôt bien passé. Malheureusement, ce n'était pas le cas de tout le monde, notamment de certains amis très proches qui n'ont rien eu, par exemple.
Et du coup, comment expliques-tu cette différence, le fait que certains n'arrivent pas à avoir d'affectation ? Est-ce que tu connais les algorithmes de Parcoursup ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se choisit ? Parce que Narges et moi, on a essayé de trouver sur Internet, et on va être honnête avec toi, on n'a rien trouvé sur les algorithmes. Et je vais laisser Narges peut-être...
C'est vrai, on n'a rien trouvé. Du coup, moi, je me suis dit, est-ce que c'est comme APB, est-ce que c'est en fonction des villes, des lycées, des notes ou bien des retards et des absences ? Du coup, je suis un peu perdue personnellement sur ça.
Alors, on est tous perdus parce que personne n'a accès justement à ces algorithmes-là. C'est d'ailleurs une de nos revendications à la FIDEL de savoir sur quels critères nous sommes sélectionnés à l'entrée des universités. Parce qu'on ne sait pas si on est sélectionné seulement selon nos notes, selon notre adresse de résidence, selon nos retards, selon... Il y a beaucoup trop de critères qui peuvent entrer en compte. Et étant donné qu'on ne sait pas, on peut s'imaginer plein de choses. On peut même penser peut-être que certaines universités sélectionnent selon le nom de la personne, selon sa ville de naissance, selon quoi que ce soit qui n'a aucun rapport avec sa scolarité. Et c'est un gros problème qu'il n'y ait pas cette transparence-là au niveau des algorithmes.
Ah, donc on ne va jamais le savoir, c'est...
Ben, on va le savoir un jour, parce qu'à force de mobilisation, on le saura bien un jour. Mais pour l'instant, c'est encore très flou et très opaque.
Personnellement, ce que je sais, c'est que les facs ont un devoir d'avoir un certain nombre de quotas de boursiers par licence, par filière. Donc ça, on le sait. Mais en ce qui concerne les chiffres, que ce soit affectation ou bien les critères, moi, j'ai lu un article de 20 minutes. Et en fait, c'était une comparaison entre APB et Parcoursup. Et donc, on nous expliquait que le gouvernement disait que bah, Parcoursup, ça marche beaucoup mieux qu'APB, qu'il ne faut pas se faire de soucis, etc. Mais qu'en fait, les chiffres, on ne les avait pas. Donc, on a la voie officielle. Mais ce qui se passe derrière, en officieux, et ben, comme tu dis, on n'a pas les preuves et on ne sait pas à quoi se fier pour l'instant.
Aussi, il y a une grande différence entre APB et Parcoursup. C'est que sur APB, les vœux étaient hiérarchisés. On pouvait mettre mon vœu numéro 1 et tel établissement, numéro 2, etc. Aujourd'hui, sur Parcoursup, il n'y a aucune hiérarchisation des choix. C'est-à-dire qu'on entre sur la plateforme, on s'inscrit, on met nos 10 vœux et par la suite, on a les réponses au fur et à mesure. Mais ce qui fait qu'à la fin, par exemple, le ministère peut dire « Cette année, nous avons eu 80% d'admission dans le supérieur ». Alors que peut-être 50% de ces 80% d'admission étaient le dernier vœu, enfin le dernier choix d'un des élèves. Et du coup, se retrouve dans une filière qui ne lui correspond absolument pas, qui continue à étudier cette année-là, parce que s'il ne la fait pas et qu'il fait une année blanche, il ne sera pas prioritaire l'année d'après sur Parcoursup. Et donc, ça aussi participe au mal-être des étudiants.
Et du coup, c'est ça qui fausse les chiffres, parce que, bon, pour reprendre encore cet article-là, en fait, il disait qu'avec APB, il y avait plus de personnes qui étaient orientées vers leur dernier vœu, leur second, troisième, etc. Alors qu'avec Parcoursup, la plupart étaient orientées vers leur premier vœu. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'hiérarchisation des vœux, tous les vœux peuvent être considérés comme premier vœu. Du coup, la problématique est là. Narjes ?
Moi personnellement j'étais dans ce problème et c'était mon dernier vœu où on m'a accepté cette année et finalement je suis pas partie. Du coup moi je voudrais savoir par exemple, ça fait 3 ans que j'essaye Parcoursup, est-ce que cette année si je réessaye, est-ce que j'aurai une chance d'avoir ce que je veux?
Je te l'espère, mais malheureusement je pourrais pas te le dire parce que comme j'ai dit tout est très opaque et on a aucune vue sur ça. Mais en fait, le problème, il sera pareil d'année en année si aujourd'hui le ministère de l'Éducation ne décide pas d'agir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bacheliers que de places en université. Et donc, chaque année, ce sera le même problème tant que le ministère de l'Éducation ne décide pas, et de l'enseignement supérieur, ne décide pas d'ouvrir de nouvelles classes, d'ouvrir de nouvelles universités, de créer de nouvelles infrastructures, de nouveaux établissements, etc. Donc,
Du coup, je voulais savoir, est-ce que les critères écrits sur Parcoursup sont respectés par les facs, par les universités, les BTS, etc.
On ne peut pas savoir s'ils sont respectés à partir du moment où ils ne sont pas indiqués. Enfin, il y a des critères qui sont indiqués, mais c'est des critères qui sont assez logiques, c'est-à-dire les spécialités qui sont mises en avant pour telle ou telle filière. Par exemple, pour une filière de sciences politiques ou de sociologie, on va dire que c'est mieux d'avoir fait la spécialité SES, HLP, HGSP, etc. Mais en général, quelqu'un qui prend maths, physique, chimie ne va pas faire une licence de sociologie. Ou encore les niveaux de langue. Par exemple, avoir niveau de langue B1 en français pour intégrer une fac française. En général, quelqu'un qui ne parle absolument pas français n'intègre pas une fac française dans une licence en français. Par contre, ce qui n'est pas indiqué, c'est les académies. Est-ce que telle ou telle académie prend plus de gens de la région ou pas? Est-ce qu'il faut avoir fait tel... Par exemple, à un moment, il y avait une école de droit, enfin une fac de droit, qui disait que ce n'était pas obligatoire, mais qu'il fallait mieux avoir une lettre de recommandation d'un avocat ou de quelqu'un qui travaille dans le secteur du droit pour être pris dans cette fac. Mais on n'a pas tous quelqu'un qu'on connaît qui est avocat ou qui fait du droit pour nous donner ça. Et donc ça instaure plus qu'une sélection. Là, c'est des inégalités sociales qui sont clairement écrites d'intégrer des facs et un droit fondamental de chaque lycéen et lycéenne d'avoir un enseignement supérieur.
Tu parles d'inégalité sociale. Moi, j'aimerais parler d'inégalité territoriale. C'est-à-dire que dans tous les critères que l'on sait et que l'on ne sait pas, que l'on devine. Est-ce qu'il y a un critère de secteur? Est-ce que, par exemple, telle université va prendre un quota de son académie et ensuite libérer des places à d'autres? Est-ce que tu es un peu au fait de ça?
Alors, il y a certains établissements qui mettent clairement la mention qui prendront en priorité les élèves de leur académie et que s'il reste des places, ils prendront les autres académies. Ça, c'est plutôt les académies assez surchargées où il y a plusieurs... Beaucoup de demandes, par exemple certaines facs à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Sinon, pour la suite, non, il n'y a pas de sectorisation spéciale des vœux. Ça dépend plutôt des stratégies des élèves ou des stratégies conseillées par les professeurs. Par exemple, moi, personnellement, on m'avait dit sur tes 10 vœux, mets-en 8 à l'intérieur de ton académie. Et essaye d'en mettre 2 quand même dans d'autres académies au cas où tous ceux de Paris seraient chargés. D'autres ont reçu le conseil de faire que dans leur académie parce que ça ne servait à rien d'aller trop loin. Enfin, c'est plutôt des stratégies que de réelles indications. Même si ça nous aiderait bien d'avoir des indications pour savoir où on va.
Marjus ?
Apparemment, l'an prochain, on va connaître les algorithmes de Parcoursup, est-ce que c'est vrai?
Alors l'année prochaine, est-ce que c'est vrai? J'aimerais bien, ça serait pas trop tôt. Mais chaque année, on nous dit qu'on les connaîtra l'année prochaine ou cette fin d'année, que chaque année, l'algorithme est encore en construction ou en écriture, je sais pas trop comment on dit par les algorithmes, mais qu'il serait dangereux pour la sécurité de l'éducation nationale de les dévoiler tout de suite. Donc j'espère bien qu'on va les avoir... Même avant l'année prochaine, ça serait bien. Mais pour l'instant, on ne les a pas et chaque année, on nous dit qu'on l'aura.
J'avoue, j'espère aussi.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelques mois, il va y avoir une présidentielle qui va arriver. Et donc, il y a quelques candidats qui sont exprimés déjà sur Parcoursup. Alors, à gauche, au PS, il y a Anne Hidalgo qui aimerait supprimer Parcoursup. Yannick Jadot, pareil, pour les Verts. Et du côté de la droite, dans le camp de Pécresse, on dit qu'il faudrait plus de transparence au niveau des algorithmes, parce que selon eux, au niveau de Parcoursup, ça marche mieux, mais il y a beaucoup trop de second, troisième choix, etc. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on supprime Parcoursup? Est-ce qu'on l'améliore? Je sais que ceux qui gèrent les facs, les directeurs de facs, eux, sont pour Parcoursup, parce que sinon ce serait un peu trop le marché et tout le monde viendrait, etc. Donc toi, en tant que secrétaire général de ce syndicat, qui est la FIDEL, quelle est ta position là-dessus?
Bah déjà, ça ne m'étonne pas que les directeurs de fac souhaitent Parcoursup, étant donné qu'ils ont la main sur les étudiants qu'ils auront et que ça favorisera leur statistiques à la fin de l'année. Mais nous, ce qu'on demande à la FIDEL, c'est que pas que Parcoursup soit supprimé, ou un retour à APB ou spécialement. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà, première étape, d'être entendu, d'être reçu en tant que syndicat de jeunesse, donc syndicat des lycéens, syndicat des professeurs, syndicat des parents d'élèves, et que Parcoursup ou un autre, on s'en fout du nom que ça porte, mais que cet algorithme de répartition, pour pas dire de sélection, soit construit avec les acteurs qui l'utilisent au quotidien, c'est-à-dire les élèves, les parents d'élèves, parce qu'ils sont très impliqués dans les vœux de leurs enfants, ce qui est logique, et les professeurs, pour qu'ils puissent aiguiller leurs étudiants et leurs élèves sur cette plateforme-là. Donc, tant que c'est construit avec tout le monde et qu'on sait dans quoi on est, ils peuvent l'appeler Parcoursup, APB ou je ne sais quoi, mais il faut que ça soit changé.
Oui, donc le constat est le même de toute manière. Ça reste une plateforme qui sélectionne, qui trie. Et les étudiants, les futurs étudiants et les lycéens ne sont pas maîtres de leur sort. Du coup, c'est bien ça.
Voilà, okay. En gros.
Et en parlant de ça, moi, j'aimerais bien parler aussi du Parcoursup pour les masters. J'en ai entendu parler. Je ne fais pas encore partie de cette team, mais on m'a dit que c'est très compliqué d'y entrer. Et du coup, je voulais savoir c'est quoi exactement les difficultés pour entrer en master via Parcoursup.
Aujourd'hui, par exemple, parmi les 100 facs, il n'y a pas seulement des bacheliers qui n'ont pas réussi à avoir de licence, il y a aussi des détenteurs déjà d'une licence, c'est-à-dire qui ont déjà fait 3 ans d'études, qui veulent poursuivre en master, parce qu'aujourd'hui, avoir seulement une licence, malheureusement, ça ne suffit pas pour accéder à certains postes. Donc, c'est les mêmes difficultés, en fait, c'est exactement le même schéma, parce que ça passe par le même algorithme, Parcoursup. C'est aussi le même mécanisme dans la mesure où il y a plus de gens qui ont obtenu leur licence que de places en master. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont travaillé pendant 3 ans, qui ont travaillé dur pour avoir leur diplôme de licence et qui ne veulent... ne peuvent pas aller plus loin malgré qu'ils le souhaitent. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on stoppe le parcours scolaire de certaines personnes avant qu'il soit terminé pour eux. Et ça, c'est très grave.
Est-ce que le fait qu'il y ait des étudiants en recherche de master, ça vous a amené à travailler avec du coup, des syndicats étudiants à la fac ou non ?
Oui, bah, nous avant on travaillait beaucoup avec des syndicats étudiants parce que tout simplement c'est dans la continuité, dans la même optique qu'on travaille avec certains collèges, plus pour la sensibilisation qu'avec des syndicats de collège parce que ça n'existe pas. Par exemple quand il y a eu le mouvement de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers dans les facs, en tant que syndicat aussi on avait la conviction qu'il faille se mobiliser malgré qu'on ne soit pas étudiant, mais que parce que c'est la prochaine étape qui nous attend et que même si ça ne nous concerne pas spécialement parce qu'il y en a qui ne veulent pas intégrer l'enseignement supérieur et faire autre chose, il était important qu'on se solidarise avec eux. Du coup, il y a eu beaucoup de collaboration avec les étudiants sur ce mouvement des sans-fac.
Pour contextualiser, hein, c'est sa première émission. Est-ce que tu aurais une question à poser à Dounia ?
Ouais. Moi, j'aimerais bien revenir sur un point. Ça fait un petit moment déjà. C'est quand tu as dit, je cite, quelqu'un qui fait maths physique ne choisira pas une licence en sociaux. Ben moi, j'ai choisi justement maths physique et SES en SP. Ce qui est, on va dire, des SP assez... éloigné. Et je pense que beaucoup d'élèves sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop quoi faire, ils ont choisi des SP assez éloignés. Est-ce que, au niveau de Parcoursup ou en général, vu qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire et qu'ils n'ont pas choisi des SP, on va dire, qui vont dans le même sens, est-ce qu'ils sont défavorisés ?
Alors, l'éducation nationale a décidé de mettre en place cette réforme des bacs 2021, une des raisons qui était avancée, on va dire, c'est que le fait que les filières soient supprimées et que ce soit les élèves qui puissent composer entre guillemets leur menu pour la suite de leurs études, ça leur accordait une grande liberté, qu'ils n'étaient pas obligés de se cantonner par exemple à une filière S ou autre. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec un effet presque inverse parce que, vu qu'on n'est pas accompagné dans cette composition de nos choix, il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent à en fait, simplement recréer les anciennes filières, c'est-à-dire prendre pour la filière S, maths, physique, SVT, pour la filière L, HLP, etc. Donc, ce n'était pas du tout le but de la réforme. Et certains ont d'ailleurs fait cela. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, une personne dans mon lycée a pris SP Cinéma avec SP SVT et SP HLP. Parce que, étant donné qu'elle voulait elle ne savait pas absolument ce qu'elle voulait faire plus tard, elle a pris à peu près une matière dans chaque filière. Elle a pris un peu ce qui lui plaisait, ce qui était normalement le but de la réforme. Mais par la suite, elle s'est retrouvée avec des facs, par exemple, qui l'ont acceptée. Entre dans une licence sociologie portail cinéma, mais qui lui disait qu'elle va devoir faire une remise à niveau dans certaines matières ou autres. Pareil, par exemple, pour des licences informatiques, où quelqu'un avait pris physique, maths et AGGSP, donc l'aspect histoire, que c'est pas pénalisant qu'il ait pris AGGSP, mais qu'il va devoir faire une remise à niveau en même temps que son premier semestre. Et ça pénalise les nouveaux étudiants, parce que déjà qu'ils changent totalement de milieu d'enseignement, quand même passer du lycée à la fac, c'est un grand changement, pour certains qui déménagent aussi, donc aussi un changement de maison. Et se rajouter en plus cette pression-là de se remettre à niveau dans certaines matières, alors qu'on se fait pénaliser sur la chose qui était censée être le point fort d'une réforme, aujourd'hui c'est pas normal et ça ne devrait pas être.
Donc en gros, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il y a eu une réforme au niveau du lycée. On a dit aux lycéens, faites vos choix, c'est libre. Faites vos choix, tout simplement. Mais une fois arrivé à la fac, cette réforme-là n'a pas été suivie, n'a pas été accompagnée pour que derrière, à la fac, on puisse tout simplement suivre nos études comme si on avait fait un bac S ou un bac L ou un bac ES. C'est ça ?
Ouais, en fait, cette réforme, on va parler clairement, elle a été un peu faite dans le noir parce qu'ils l'ont fait très vite. Ils n'ont consulté personne ou alors s'ils ont consulté des gens, ils n'ont pas pris en compte leur demande. Donc, ils nous ont mis quelque chose sur la table, ils nous l'ont imposé parce que, encore une fois, dès le début de cette réforme et de Parcoursup aussi d'ailleurs, les syndicats, que ce soit de professeurs, de lycéens ou de parents d'élèves, on a tous dit qu'on n'était pas favorable à cette réforme-là. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ont continué à foncer droit dans leur objectif réforme et Parcoursup. Et aujourd'hui, on voit très bien les résultats et ceux qui les payent, c'est pas le ministère, c'est les élèves encore une fois.
Vu qu'on parle de la réforme, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai voulu faire une option droit, en plus, vu que j'ai quitté l'aspect SES il y a 2 ans. Je me suis dit que j'aimais bien ce milieu et que je voulais choisir une option droit. Sauf que cette année, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que ce n'était pas possible parce que les emplois du temps étaient chargés et c'était compliqué parce que en fait, l'option droit tombait exactement en même temps que les 3 heures d'affilée de mathématiques que j'avais le lundi soir. Donc j'ai cherché, j'ai posé des questions, j'ai demandé à ce qu'on trouve une solution et l'administration m'a dit « Non, on peut rien faire pour toi, je suis désolé, tu vas pas pouvoir faire cette option. » Du coup, vu que je la passe pas, elle n'est pas écrite dans mon bac, ça peut poser des problèmes aussi sur Parcoursup, mais à la rigueur, c'est qu'une option. Je me dis « C'est qu'une option, c'est pas très grave. » Sauf que j'ai des cas concrets dans ma classe qui font des SP assez éloignés comme SES et mathématiques et qui doivent choisir entre leurs SP. Ils ont 2 SP qui sont obligatoires. Ils doivent choisir entre aller le lundi en cours de mathématiques ou en cours de SES. Comment on fait ? Quelle est la solution ?
Pour les options, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Déjà, moi, personnellement, j'avais mes 3 options qui tombaient le même jour, le même horaire, le lundi de 16h à 18h. Donc, on m'a demandé de choisir entre soit l'option sport, que je suivais déjà depuis 5 ans, soit l'option théâtre, soit le latin. Et du coup, étant donné que l'option latin et l'option sport, c'était les 2 options qui ramenaient des points pour le bac, j'ai dû choisir entre ces deux-là, donc j'ai gardé sport. Mais on ne peut pas nous proposer de faire des choses et par la suite nous dire « Ah bah non, en fait, les emplois du temps ne vous permettent pas. » Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous qui gérons les emplois du temps. Donc, c'est aux administrations de mieux gérer ça. Et encore une fois, les élèves ne doivent pas être pénalisés pour ça parce qu'on leur donne la possibilité de le faire. Donc, et pour les enseignements de spécialité, c'est pareil. Dans mon lycée, il y avait aussi le même problème que dans le tien et dans plusieurs lycées aussi partout en France parce que c'est une des problématiques qui revient souvent sur nos réseaux sociaux de la Fidèle, entre autres. C'est que les spécialités se chevauchent sur le même créneau. Nous, c'était LLCE donc, et SES. On a dit, allez, une semaine en LLCE et une semaine en SES. Sauf que, premièrement, les programmes sont beaucoup trop chargés en temps normal pour les finir dans les temps et dans les heures de cours qui sont imparties. Si encore, en plus, on les coupe en deux pour aller aux deux cours en même temps, c'est juste pas possible. Alors, la deuxième option qu'on nous a donnée, c'est de faire une heure, de couper les 2 heures. Sauf que dans ces enseignements-là, 1 heure, ça ne suffit pas du tout. Le temps qu'on fait l'introduction, qu'on fait un exercice, l'heure, elle est déjà finie. Et enfin, en plus, tout simplement, les professeurs ont un cours à donner. On ne peut pas leur dire « Ah, mais en fait, on a un autre cours à aller, on part. » Et nous, on a la moitié des cours, en fait. Donc, que ce soit vis-à-vis des élèves ou vis-à-vis des professeurs, ce n'est pas faisable. Et donc, les seules solutions qui sont trouvables, c'est de mieux agencer les emplois du temps, de mieux les faire, de prendre plus de temps s'il le faut à les faire, de séparer les classes, de faire des classes par spécialité, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des classes. Enfin, ma classe, j'ai l'impression de l'avoir vue presque jamais pendant mes 2 ans de lycée. J'ai une classe pour le tronc commun, et après, ma classe, elle change à chaque fois avec une nouvelle spé. Donc, c'est normal qu'on se retrouve avec une classe de spé qui mélange 3 classes ou 4. C'est infernal au niveau des emplois du temps. Ou sinon, juste le plus simple et le plus pratique pour tout le monde, recruter de nouveaux professeurs, ouvrir de nouvelles classes et simplifier la vie à tout le monde pour qu'on puisse faire ce qu'on veut faire et que les professeurs aient le temps de faire ce qu'ils veulent faire avec nous.
Et donc du coup, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Moi, j'aurais voulu savoir pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont en difficulté ou bien qui vont passer le bac cette année et qui n'ont pas beaucoup d'informations, parce que moi, par exemple, quand j'étais en terminale, même les professeurs n'avaient pas d'informations. C'était assez compliqué. Mais donc toi, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour qu'ils soient acceptés plus facilement, ou vers qui se tourner pour qu'ils soient entendus, qu'ils aient tout simplement une épaule sur quoi se reposer?
Le conseil que je peux leur donner, c'est de prendre contact avec les conseillères d'orientation dans leur lycée, parce qu'aujourd'hui, normalement, il y a une conseillère d'orientation minimum par établissement, sauf qu'il n'y a pas assez de conseillères d'orientation, ce qui fait que tout le monde ne peut pas avoir un rendez-vous, et donc ces rendez-vous ne sont pas systématiques. Donc, il faut que les élèves prennent l'initiative d'aller prendre un rendez-vous s'ils ont des difficultés pour formuler leurs vœux. Ils peuvent les aiguiller, les conseiller, se tourner aussi vers des professeurs, le professeur principal, pourquoi pas, même si malheureusement, les professeurs sont aussi perdus que nous, parce qu'eux aussi n'ont pas d'infos, ou alors quand ils ont des infos, ils l'ont le matin même par mail, ou la veille au soir à 23h, donc nous on arrive le matin à 8h, leur posant des questions, ils ne savent pas non plus, ce qui aussi provoque plusieurs problèmes chez les professeurs et les syndicats de profs. Mais sinon, autre solution, c'est aussi de nous contacter, la FIDEL, ou que ça soit sur nos réseaux sociaux ou directement sur notre mail. En cas de problème, du coup, nous, on pourra les accompagner, contacter l'établissement s'il le faut, contacter le rectorat s'il le faut. Par exemple, ce matin, on était en réunion avec des élèves des établissements du 93 et du 94 par rapport au manque de professeurs. Donc on a commencé les démarches pour avoir des rendez-vous au rectorat, pour appuyer leurs demandes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les lycéens ne sont pas écoutés. À chaque fois qu'on fait des mobilisations, quand on nous écoute, c'est pour dire « Ah, ils veulent plus de frites à la cantine ». Donc avoir un appui d'un syndicat, c'est très important. Et donc, on pourra les accompagner.
Avec tout ce qui s'est passé sur Parcoursup et bientôt avec la présidentielle, est-ce que la FIDEL va mener des actions précises sur ce sujet?
On a les mobilisations qui continuent. Là, on n'a pas encore exactement les dates des manifestations, mais on travaille aussi beaucoup avec d'autres syndicats lycéens et des syndicats étudiants et des syndicats de profs. Mais sinon, d'ici la présidentielle, étant donné que c'est le moment où on doit se faire entendre en tant que jeune et que les questions lycéennes et de jeunesse ne sont pas au cœur des problématiques aujourd'hui des hommes et des femmes politiques, c'est comme on l'a fait pour les régionales, de faire une liste de 10 ou 15 recommandations pour le nouveau ou la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, où on expose, en tant que syndicat lycéen, nos recommandations. On ne sait pas encore si on les fera hiérarchiser ou pas. Qu'est-ce qui doit aujourd'hui changer et vite dans l'éducation nationale, dans la gestion des lycées, que ça soit par exemple pour toutes les inégalités qui sont liées au numérique, qui se sont encore plus accentuées avec la crise du Covid par exemple, ou le recrutement des professeurs, ou le recrutement des CUP, des conseillères d'orientation, pour justement répondre à ces problématiques-là d'orientation, entre autres avec Parcoursup. Le financement de certains lycées pour la rénovation de certains bâtiments qui sont aujourd'hui insalubres et où les conditions d'études ne sont juste pas acceptables, etc. Donc vous trouverez normalement d'ici quelques semaines cette liste des recommandations qu'on fera au nouveau ministre ou la nouvelle ministre. Et on espère cette fois par contre qu'elle sera un peu plus entendue et écoutée qu'au régional, parce qu'on avait fait la même chose en plus court, 5 recommandations, étant donné que les lycées dépendent des régions et les collèges des départements. Voilà, sinon on a d'autres mobilisations qui sont prévues et que vous pouvez par exemple retrouver en temps, enfin les dates qui seront annoncées sur les réseaux sociaux de la FIDEL.
Et je voulais savoir, pour c'est ma dernière question, promis. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que les universités lisent les lettres de motivation qu'on écrit sur Parcoursup?
Mais j'espère bien qu'ils les liront, j'ai mis un ton fou à les écrire en plus. Mais en vrai, on ne sait pas, toujours pas.
On ne connaît pas la réponse.
Non.
Ok, bah, dommage pour les personnes qui n'arrêtent pas de...
Comme toi. Arrête, tu parles de toi.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'était la petite question personnelle de Narges. Pour finir, bah, du coup, merci.
Merci à vous.
Merci Narges.
Merci beaucoup.
Merci Taha.
Merci à toi.
Du coup, ce cinquième opus des concernés sera disponible sur le site de l'Étincelle Média. On vous attend nombreux et on espère que vous serez nombreux à consulter notre site web. Merci à tous.
Exactement, c'est bizarre.
Je dis simplement, c'est bizarre.
Première chose, bizarre.
Deuxième chose, bizarre.
Je trouve ça pour le moins bizarre.
Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays.
Non, mais les journalistes, vous avez ça d'extraordinaire.
Mais non, mais...
Vous foutez rien et vous reprochez aux autres de pas avoir fait. Non, vous foutez rien, vous n'avez pas écouté.
Les concernés, l'émission de radio qui reprend la parole à ceux qui nous l'ont confisquée.